Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Christian Deboissieu, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Nicolas Bouzoul, fondateur du cabinet Asterès, qui vient de publier La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir chez XO Éditions. Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France. Un peu de concret là, Nicolas, sur ce qui pourrait se passer, parce que la réforme de l'État et son efficacité, comme on l'a dit, d'abord il faut l'engager, et puis ça prend du temps pour produire des effets. Là, il est un peu mini moins 5 quand même, dans ce qu'on est en train de vivre. Donc, je retouche à l'assurance chômage pour la troisième fois en 4 ans, 3 ans. Je dis aux retraités, je suis désolé, vous n'allez pas être aussi bien indexé que prévu. Les ALD, désolé, on ne peut plus continuer à prendre en charge intégralement les affections longue durée. Cher taxi, votre rente sur le transport sanitaire, c'est fini. Ou alors, dans la fonction publique, non, là, il y a vraiment trop d'absentéisme. Maintenant, les arrêts maladie, on va serrer la vis. C'est ça, hein, la liste approximatif de ce qui est un peu dans les esprits et de ce qu'on retrouve dans le bouquin de Bruno Le Maire d'ailleurs.
Non, mais il y a des choses là-dedans qui se défendent, je trouve. Hein. Par exemple, sur le chômage, alors il y a un débat entre Matignon et Bercy pour savoir si on joue sur le niveau de l'indemnisation, ce qui est plutôt l'idée de Matignon, ou sur la durée de l'indemnisation, ce qui est plutôt l'idée de Bercy. Elle a déjà été un peu raccourcie, la durée d'indemnisation, mais c'est vrai qu'elle est encore relativement longue, donc on peut jouer là-dessus, mais les effets seront quand même relativement marginaux. Puis je trouve qu'il y a des trucs qui sont carrément mesquins. Alors moi, je suis super rigoureux en matière de dépenses publiques, je suis libéral, etc. Mais ouais, je trouve que les frais de transport hospitaliers, j'entends bien votre argument sur la rente des taxis, mais aujourd'hui, je trouve que vu les cotisations salariales que payent nos concitoyens, le fait que quand ils vont faire leur chimiothérapie, ils puissent y aller en taxi, je trouve ça très bien. Je trouve ça normal et je trouve très mesquin de jouer là-dessus parce que ce que va demander le gouvernement, c'est grosso modo du covoiturage. Si demain je devais aller me faire opérer, même pour un truc pas grave, mais ou si je devais aller faire une radiothérapie, je suis pas sûr que je serais super content à l'idée de
partager la voiture avec un autre.
Mais je crois, et ce que je dis est complètement universel. Ouais. Donc je pense que c'est quand même assez pénible et donc je reviens à cette idée tout à l'heure. Ce qui est très pénible, c'est la crédibilité de la parole publique, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire, et vous pouvez reprendre des déclarations des uns des autres. Le rabot, c'est la fin. J'ai tort ou pas ?
Non, mais je sais. Mais
et puis, c'est toujours le rabot qui revient, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est pénible.
Les discours dans les mots sont toujours généralement très clairvoyants. Mais dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Je fais toujours référence à cette scène qui m'a amusé dans le fameux docu là, sur la dette des contribuables et associés. Il y a juste le début, moi, qui m'a amusé. Vous voyez, la dette qui monte depuis des années, et à chaque fois qu'elle monte, vous voyez le responsable politique du moment qui, à chaque fois, vous dit « Avec moi, c'est fini !» Bon, il y a un moment, avec lui, c'est pas fini, pas plus qu'avec les autres, et c'est pas... Bon. Christian Deboissieu, après on avance, parce que...
Nous sommes bien d'accord sur le fait que le social doit pas encaisser 100% de l'ajustement. Hein. Je suis désolé. Pour moi, la question centrale, qui est une question de politique économique et de politique tout court, c'est comment on ventile les efforts à faire entre le social et le reste.
Eh bien, on vous dira, Christian, que la dépense d'État des administrations n'est pas plus élevée en France que dans les autres pays, oui, et que la différence se fait sur la dépense sociale.
Bon, et je voudrais faire une remarque sur l'assurance chômage. Parce que même si je vois bien l'évolution sans doute nécessaire, je pense que ça n'est pas en période de hausse du chômage qu'on resserre les boulons sur l'assurance chômage. Or, nous sommes dans un contexte où depuis quelques mois le chômage augmente, il va continuer à augmenter. On va être à 7,6% de chômeurs au mois de juin 2024 et la Banque de France vous dit que ça va continuer. Donc je trouve que l'effet signal est pas bon. Quand on pose un certain nombre de principes, d'abord, et je termine sur l'assurance chômage, parce que pour moi c'est un exemple caractéristique, j'allais dire, il faut pas se bousculer pour faire les réformes. Il y a le feu dans la maison, vous l'avez dit, Nicolas. En même temps, faire une troisième réforme de l'assurance chômage sans avoir évalué les effets des deux premières, ça me paraît de mauvaise politique. Ça rejoint le débat sur l'absence de culture, l'insuffisance de culture d'évaluation des politiques publiques en France.
La fraude fiscale et sociale, qui est intéressée par le sujet ?
de la fraude fiscale, en fait. Parce que
Gabriel Attal... Nicolas, j'ai l'impression que vous avez tout dit. mais Gabriel Attal nous dit, c'est merveilleux, regardez, 15 milliards d'euros sur la fraude fiscale.
Bon, on a besoin de cette rentrée d'argent.
Oui, mais ce n'est pas de l'argent qui est rentré, c'est de l'argent identifié. On a fait rentrer 10 milliards 6 comme en 2022. Philippe, est toujours là à nous dire, l'argent de la fraude fiscale et sociale, c'est le Graal que l'on va aller chercher.
Bien sûr que c'est important de lutter contre la fraude fiscale et sociale, mais on va pas trouver les 70 milliards de recettes qui vont payer la charge d'intérêt de la dette. C'est pas là qu'on va les trouver.
Juste une remarque avec la bouche. Donc déjà, on fait déjà énormément en matière de lutte contre la fraude fiscale et sociale en France. Ça date, en fait, je me souviens très bien de ces évolutions, ça date vraiment de 2008. C'est-à-dire que c'est à partir du moment, donc la crise de 2008, après la crise, on a commencé à se poser sérieusement justement des questions de réduction des déficits publics, notamment François Hollande, quand il a été élu en 2012. La lutte contre la fraude a été considérablement renforcée avec beaucoup de résultats. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lutter contre la fraude, c'est forcément bien, hein, mais ça se fait à des coûts qui sont toujours plus importants pour des recettes marginales qui sont toujours plus faibles. Alors, donc il faut le faire, mais il faut pas en effet en attendre. Il y a rien de caché, si vous voulez.
Le taux
de recouvrement, juste dernier mot, des recettes fiscales en France doit être, de mémoire, l'un des plus élevés au monde. On doit être à 98 ou 99%, quelque chose.
C'est tout à fait ça. Mais je dis ça parce que régulièrement, quand il y a des élections, vous avez des partis qui sortent des programmes hors de prix, et on leur pose la question, mais comment financez-vous? Et la réponse, c'est toujours, j'irai chercher l'argent de la fraude. Et l'argent de la fraude, comme dit Philippe, ce ne sera pas 70 ou 80 milliards d'euros. On fera des progrès. La technologie permet de faire des progrès. Regardez, on a identifié 140 000 piscines.
C'est rigolo.
140 000 piscines grâce à des moyens technologiques qui n'avaient pas été déclarés en 2023. Ça fait 40 millions d'euros qui sont passés à l'as de la taxe foncière.
On les a identifiés. On identifier 140 000 par an non plus.
Non, voilà, exactement. Et puis, on s'est rendu compte avec Emmanuel Le Chip que, comme par hasard d'ailleurs, les ventes de bâches camouflées ont progressé. Il y a certains qui s'achètent la bâche camouflée pour mettre sur la piscine pour éviter que... Libre-échange. Allez, Christian de Boissieu. Naturellement, intuitivement, on se dit probablement qu'une bonne partie de l'opinion est pour le protectionnisme et contre le libre-échange, et dans une sorte de réflexe un petit peu pavlovien, probablement que le Sénat va voter contre le CETA.
Mais c'est la suite du débat posé par la révolte des agriculteurs. Je veux dire, très clairement, c'est une concession qui est faite. Moi, ce qui m'a étonné dans cette affaire, parce que j'ai pas conscience du fait que le CETA, donc qui a été négocié en 2017, si mes souvenirs sont exacts, entré en vigueur.
Oui, sur le terrain commercial, il est en vigueur.
C'est assez étonnant qu'on pose un problème de ratification de quelque chose qui est déjà effectif.
Il y a deux éléments qu'il faut ratifier. La protection des investissements des entreprises et la création d'une justice arbitrale. Oui. Voilà.
Et quand je regarde, deuxième remarque, quand on regarde les conséquences de ce qui se passe depuis 2017, dans cet accord entre l'Union européenne et le Canada, c'est globalement plutôt positif pour nous, Européens, et en particulier sur la filière agricole, agroalimentaire, qui était justement concernée par les événements récents. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu de contre-emploi dans tout ça, ou de contre-temps. Et donc, mais je répète, c'est le signal qui est donné à l'opinion publique, comme quoi l'Europe n'est pas une passoire, qu'on va appliquer les clauses miroirs, qu'on arrête d'être naïf, etc. Donc c'est la dimension politique, c'est l'effet d'annonce à nouveau de tout ça.
Le libre-échange, Philippe Mutrici, vous êtes libre-échangiste ou protectionniste? Vous avez le droit de me dire protectionniste, même si la plupart des gens qui viennent dans cette émission sont plutôt favorables au libre-échange.
Je vais vous répondre libre-échangiste, mais libre-échangiste, ça ne veut pas dire qu'on fait tout, n'importe comment, n'importe quoi. S'il y avait Jean-Marc Daniel sur ce plateau, il me prendrait pour un protectionniste. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Non, mais je vois ce que vous voulez dire.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que le libre-échange, c'est important, ça marche quand c'est bien fait, et c'est bien fait quand c'est réciproque. C'est le principe, il y a plusieurs choses dans la politique commerciale. On va pas faire un cours de politique commerciale, mais il y a les tarifs, il y a les quotas, et puis il y a diverses restrictions d'accès au marché qui peuvent être réglementaires. Et en l'occurrence, pour les agriculteurs, c'est toutes les questions de sanitaires. C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise des pesticides ou pas pour des antibiotiques pour les poulets, des pesticides pour le blé, etc. Et donc, dans ces trois dimensions, en fait, c'est des curseurs qui vont varier, mais le plus important, c'est pas tellement que les droits de douane soient à 20% ou 15% ou 10%. Plus ils sont bas, plus ça marche. Ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit réciproque. Et donc, quand nous, on constate que la taxation sur les véhicules européens vendus en Chine n'est pas la même que la taxation des véhicules chinois vendus en France, on dit que ça va pas. Alors, est-ce qu'il faut augmenter les droits de douane ou demander aux Chinois de les baisser? Si on augmente les droits de douane, Jean-Marc Daniel va dire, bah oui, vous êtes protectionniste. Non, on est libre-échangiste. Simplement, on voudrait que ces règles soient bien appliquées et qu'elles soient réciproques.
Moi, je voudrais rajouter, oui, Nicolas, juste un mot là-dessus, parce que je suis pour le libre-échange, mais avec des règles du jeu respectées. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Organisation mondiale du commerce est totalement absente.
Bien sûr.
Je veux dire, et dans à l'OMC, donc à Genève, il y avait, dans le temps, il y avait l'organe de règlement des différends, c'est-à-dire l'antenne efficace de l'OMC.
L'ORD, aujourd'hui, oui.
Complètement paralysé, les Américains démocrates, républicains, démocrates refusent, ça a commencé avec Obama et ça continue avec la suite,
de désigner leur juge.
Et c'est complètement bloqué.
Oui, donc, à cause des Américains.
Donc il n'y a pas d'arbitre dans le système.
Et d'ailleurs, j'ai oublié les aides d'État, qui normalement étaient surveillées par l'OMC.
Vous avez vu, 20 milliards d'aides fédérales pour Intel. Au moins, ils ne s'embarrassent pas, les Américains. On veut qu'Intel cartonne, produit sur le sol américain, devienne un mastodonte déjà qu'il est dans les semi-conducteurs. 20 milliards. Tranquille. La position de... Alors effectivement, si Jean-Marc Daniel était là, il dirait que vous êtes un protectionniste.
Oui, en fait, il faut que ça soit réciproque, juste, et que les règles soient appliquées.
Là, depuis hier, avec ces histoires de CETA et de libre-échange, je vois les réactions des gens. Vous êtes complètement hors sol à Paris. Allez voir ce que vivent les agriculteurs. Comment vous pouvez défendre le libre-échange? Évidemment, il faut se protéger. Et je comprends la position des gens qui vont dire « Ouais, ça c'est des débats d'experts économistes, mais allez voir la réalité sur le terrain. Comment voulez-vous que je fasse, moi, qui vends tel ou tel produit face aux concurrents ?»
On a rappelé les chiffres du CETA tout à l'heure.
Oui, mais ça, c'est pas le libre-échange parfait. Ça, c'est du libre-échange qui fonctionne mal.
Oui, mais alors, en l'occurrence...
Parce qu'il n'est pas réciproque.
Ceux qui dénoncent ce qui ne fonctionne pas, ils l'observent et ils le constatent, et c'est la vérité. C'est dur à arbitrer, Nicolas Bouzou, ces histoires.
Moi, je pense que le Sénat est en train de commettre un contresens économique, parce que quand vous regardez la structure du commerce international de l'agriculture française, en fait, vous voyez, contre toute attente, que nous réussissons plutôt vers les destinations lointaines et que nous perdons des parts de marché à l'intérieur de l'Europe, en réalité. C'est-à-dire que les difficultés de la filière agroalimentaire, d'ailleurs de l'agriculture et du reste, aujourd'hui, ça vient de la compétition avec l'Allemagne, de la compétition avec les Pays-Bas, de la compétition pour l'essentiel avec les pays européens. Mais le CETA, Christian de Boissieu l'a rappelé tout à l'heure, maintenant on a suffisamment de recul, on sait que ça a plutôt bénéficié à l'agriculture française. Et donc, le sujet est beaucoup moins un sujet d'accord de libre-échange, dont je rappelle d'ailleurs qu'un accord de libre-échange, parce que là encore, il faut être concret, il faut voir ce que c'est concrètement. Parce que les gens pensent qu'un accord de libre-échange, ça veut dire que tout est permis. Accord de libre-échange, c'est quelque chose qui fait 1500 pages, qui est illisible uniquement par des juristes ultra spécialisés qui consacrent leur vie à ça. Donc, un accord de libre-échange, en réalité, c'est un accord d'hyper-régulation dans les faits. Si vous regardez les choses,
détermine très concrètement sur lesquels il y aura des
et donc le sujet de l'agriculture, pardon, c'est pas le CETA, c'est le fait que la France surtranspose les directives européennes et que du coup on utilise par exemple, et ça aussi c'est très concret, on utilise beaucoup moins de principes actifs, ça veut dire les engrais, les pesticides, que l'Allemagne ou que les Pays-Bas, et qu'on a un coût du travail, parce que ça on ne le dit jamais, plus élevé. À voir d'ailleurs avec l'assurance chômage, parce que moi je reparle aux agriculteurs et ils me parlent. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais nous on trouve personne pour travailler. Les travailleurs saisonniers, on n'en trouve pas. Parce que tout le monde nous dit, non, c'est pas assez rentable de venir travailler dans les vignes.
Ils sont pas les seuls à avoir des vignes.
Oui, mais bien sûr. Mais eux en ont. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui revient. Donc vous voyez, c'est concret, mais pardon de le dire, le CETA, c'est pas du tout la cause des difficultés de l'agriculture française. Mais Christian de Boissieu a raison, c'est perçu comme ça par contre.
Ils craignent davantage l'Amérique latine, qui est quand même un mastodonte agricole, plus que le Canada.
C'est pas prêt d'entrer en œuvre.
Mais le Mercosur, je vous rappelle que ça fait 20 ans que c'est en discussion, donc voilà. On va en parler pendant 20 ans.
Voilà.
BPI a mené, quand même, des études régulièrement. Vous êtes venu avec deux éléments du jour concernant les TPE-PME, Philippe Mutrici. Alors la première, vous allez me dire de quoi il s'agit, vous avez réagi à ce débat ouvert par Gabriel Attal sur la désmicardisation et la trappe à bas salaire, et vous êtes concentré sur la question des TPE-PME.
Oui, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce débat concerne les TPE-PME et dans quelle proportion ? On a été très surpris du résultat. Donc la smicardisation, juste pour pas rappeler sur ce plateau, mais être rapide.
Allez-y, il faut toujours.
C'est la conséquence de 17 hausses du SMIC consécutives. Donc en fait, on n'est plus dans le débat finances publiques lié à la conjoncture, on est là dans le débat conséquence de l'inflation. À cause de l'inflation qui s'est envolée pendant 2 ans, le SMIC a été réévalué 17 fois. Donc ça, le phénomène de smicardisation, c'est-à-dire que le SMIC, lui, il est indexé sur l'inflation dont il augmente, mais les salaires qui sont proches du SMIC, en fait, se font rattraper frappés par le niveau du SMIC.
Des gens qui étaient à 1,1, ils deviennent SMICards.
Voilà, c'est ça. C'est et donc, combien de PME sont concernées? TPE, PME, à partir de 1 salarié jusqu'à 250 salariés, 1 500 000 entreprises en France, ben vous en avez 50% qui sont concernées par ce sujet.
50% ont été touchés par cette...
C'est-à-dire que dans leur entreprise, il y avait des salaires proches du SMIC qui se sont fait rattraper par le SMIC. Donc ça, c'est le premier résultat qui est assez frappant. Et on voit qu'elles ont du mal à faire face, puisqu'il faut augmenter les salaires proches du SMIC, voire toute la grille des salaires. Et sur cette moitié concernée, il n'y en a qu'un tiers qui a pu le faire en 2023. Donc vous en avez deux tiers qui n'ont pas pu procéder à ces réajustements. Après, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres qui sont derrière, mais on a creusé assez profond tous ces axes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de rattrapage des bas salaires dans les PME-TPE par le SMIC.
Est-ce que, allez-y, Christian de Boissieu, parce que sur ce sujet, les constats sont terribles, mais les solutions sont ultra complexes. Non,
effectivement, ça relève de la politique salariale dans l'entreprise, des négociations dans l'entreprise, et vous avez raison de rappeler, j'allais dire indirectement, que beaucoup de PME, TPE ont des problèmes de trésorerie aujourd'hui. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand on regarde ce qui se passe devant les tribunaux de commerce, vous avez quand même aujourd'hui, j'allais dire, malheureusement, ils ont beaucoup de boulot. Il y a un effet de rattrapage, parce qu'effectivement, pendant les deux années terribles du Covid 20-21, le quoi qu'il en coûte a permis de gagner du temps. On a acheté du temps avec le quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, ça se rattrape. Et donc, ce qui m'intéresserait de voir, peut-être pour prolonger ce que vous dites, c'est... Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de ce qui se passe dans le tissu PME, TPE en termes de faillite, en termes de conséquences pour l'emploi? Je rappelais la montée du chômage, et pour moi, derrière la montée du chômage en France, il y a aussi quand même pas mal de faillites dans le tissu des PME et des TPE.
Ce que nous disent les chefs d'entreprise concernés, c'est, je vais donc donner un autre chiffre de l'enquête, c'est que pour ceux, donc cette moitié qui est concernée, il y en a la moitié, donc un quart du total des TPE-PME françaises, qui disent que c'est un frein à la croissance. Puisque le fait d'avoir des bas salaires, donc d'avoir de plus en plus de salariés payés au SMIC, c'est pas un facteur d'attractivité pour recruter. Et elles sont très concernées par la difficulté de recrutement, comme vous l'avez dit. Et donc, pour elles, c'est un frein à la croissance. Clairement. Oui. Après, sur l'augmentation des défaillances d'entreprises, on est, nous, assez sereins par rapport à cette augmentation. Nous, BPI France, on suit évidemment tous ces chiffres de très près.
Considérez que c'est un rattrapage logique et attendu.
Et oui, l'économie, elle a un principe schumpeterien, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui meurent, des entreprises qui naissent, et dans les causes de mortalité des entreprises, elles sont multiples. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, parfois l'absence de performance, soit dans la gestion, soit dans l'innovation, soit des transmissions qui sont trop tard. Enfin, il y a mille une raison qui fait que cette économie est dynamique et heureusement qu'il y a des créations chaque année. On continue de battre le record de créations d'ailleurs, plus d'un million de créations par an, dont plus de 300 000 entreprises en société. Il n'y a pas que des auto-entrepreneurs, il ne faudrait pas penser ça. Et donc, naturellement, de l'autre côté, vous avez des défaillances. Si on prend 10 ans, le nombre de créations d'entreprises en société fait x2 quasiment. Le nombre de défaillances n'a pas fait x2. Donc on a bien un tissu économique qui continue de se densifier.
J'avais un deuxième et dernier point là-dessus.
Question de Boissieu, allez-y.
Rapidement. Il n'y a pas que l'augmentation des salaires, il y a tout le débat sur l'extension des schémas de participation et d'intéressement à ce tissu des PME, TPE. Alors, il y a des textes qui ont été pris, ça va pas assez vite. Comment accélérer l'élargissement des schémas d'intéressement et de participation à ce tissu de petites entreprises?
C'est pas évident, parce que vous avez un... Évidemment, il faut aller dans ce sens-là. Hein, mais les dirigeants d'entreprise vont vous opposer que leurs salariés aujourd'hui sont trop mobiles. Donc, a priori, justement, la bonne réponse pour les garder, c'est la participation, voire... aller un peu plus loin.
Il y a eu un texte de loi qui a traduit l'accord national interprofessionnel quasiment mot pour mot.
L'idéal, c'est la participation en capital. Mais dans des petites TPE, PME, il n'y a pas de capital. Et donc ça, c'est un levier qui manque.
On est plus heureux dans le salarié.
Dans l'industrie, ça marche très bien.
Il n'y a aucun problème. Ah, le jour où on aura la solution pour désmicardiser. C'était facile à dire.
Alors, mais... il nous signale quand même qu'il y a aussi un effet de trappe à bas salaire avec les allègements de charges dégressifs. Oui. Et donc ça, un tiers d'entre eux sont confrontés à cette situation. C'est-à-dire s'ils augmentent trop les salaires, en fait, en proportion, la pénalité sur leur marge est beaucoup plus élevée que l'augmentation de salaire perçue par le salarié.
Autre sujet sur les PME-TPE, vous vous intéressez à l'intelligence artificielle et leur gourmandise ou leur non-gourmandise pour s'y engouffrer. On avait eu un chiffre récemment, je crois, avec Eurogroup Consulting qui était assez impressionnant sur le fait que la majorité voulait en rester le plus loin possible.
Bah malheureusement, on confirme ce chiffre.
Ah oui.
C'est-à-dire que si on prend le verre à moitié plein, il n'est plein qu'à 3%. Il y a 3% des TPE-PME, toujours les mêmes, hein, à partir de 1 salarié jusqu'à 250, qui utilisent régulièrement l'intelligence artificielle. 12 occasionnellement, 13% qui pensent le faire un jour mais l'ont toujours pas fait, et donc tout ça, ça fait un total de 28, hein, 3 plus 12 plus 13. Il en reste 72% qui ne veulent pas utiliser
l'IA. Ils ne veulent pas. Ils ont peur des conséquences pour l'emploi ?
Pas, non. Enfin, du côté de celles qui ne l'utilisent pas ou de celles qui l'utilisent non, en fait, le premier frein pour celles qui ne l'utilisent pas, c'est qu'on n'en voit pas les usages.
C'est ça.
Elles n'en voient pas les usages. Et le deuxième frein, c'est qu'elles n'ont pas les compétences.
À quoi ça sert ?
Et je ne sais pas faire. Ce qui est curieux, parce que l'IA, c'est quand même pas si difficile que ça à utiliser.
Ouais. Être aujourd'hui, si on n'est patron d'une PME parfaitement informée des cas d'usage de l'intelligence artificielle, on a entendu parler de ChatGPT, mais c'est un aspect, ChatGPT. Ça n'est pas l'intelligence artificielle dans son ensemble. Allez-y, ou bien sûr, Nicolas Bouzou, vous pouvez
réagir. Non, parce que moi, je trouve que ces chiffres sont absolument effrayants.
Pas déjà, surprenant, je
trouve. Déjà, du point de vue macroéconomique, parce que les gisements de croissance ces prochaines années, c'est dans les gains de productivité, et donc c'est dans l'utilisation de ce type de technologie qui présente déjà quand même un certain degré de maturité. Donc si on a simplement 3% des TPE qui s'en servent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des gains de productivité, des gisements qui sont devant nous, hein, du coup, et des gisements de croissance, du coup, qui sont devant nous. Mais enfin, quand même, ce sont des chiffres qui sont absolument pas satisfaisants. Mais je vais même aller plus loin, pardon. Mais en fait, je ne vois pas comment on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, puisque cette intelligence artificielle générative, elle est non spécialisée. C'est sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire qu'elle peut faire un grand nombre de choses. Et vous voyez, je peux prendre un exemple pratique, pardonnez-moi, mais nous, chez Asterès, par exemple, mon équipe l'utilise pour de l'économétrie, par exemple, pour aller plus loin, parce qu'on ne sait pas tout faire, il y a des techniques économétriques très récentes que mon équipe ne connaît pas, etc. Donc on utilise beaucoup, par exemple, pour faire de l'économétrie, vous voyez. Donc, ChatGPT n'a pas été fait pour faire de l'économétrie, pas du tout, mais ça fait partie de ses compétences. Donc là, je pense quand même qu'on a un sujet d'évangélisation qui est absolument majeur, et ces chiffres quand même sont vraiment pas bons.
Vous avez vu le rapport Aguillon qui a été
excellent,
très bon. Voilà, vraiment là pour tout à fait remarquable.
Et qu'on accompagne on l'accompagne dans ses travaux. On est ravis de lui donner des données par rapport à des entreprises qui utilisent déjà l'IA, qui ont été financées par BPI France pour faire des contrefactuels. Mais ce que dit Nicolas est très important, parce que en réalité, l'IA génératif, à la différence des précédentes, elle ne demande pas d'être un expert pour l'utiliser. Vu que vous dialoguez avec elle en français, vous lui posez une question, elle vous répond. Alors après, évidemment qu'il y a un apprentissage, il faut prompter correctement, il faut se méfier des biais qu'il peut y avoir dans les réponses. Oui, mais c'est quand même à la portée de tout le monde. Moi, ça me fait penser à la précédente révolution informatique, enfin, une des précédentes, c'est quand Apple a inventé la souris. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers micro-ordinateurs. Les premiers micro-ordinateurs, ils fonctionnaient avec des systèmes d'exploitation où vous passiez votre temps à faire des codes un peu complexes sur le clavier, vous aviez plein de mots à apprendre, c'était du semi-code. Donc c'était réservé à des initiés. Et puis un jour, vous avez Apple, et c'est son succès qui est arrivé, qui a dit, non, tout ça, en fait, c'est pour l'exploitation, on va le cacher, l'utilisateur, il va utiliser une petite souris, puis il va cliquer sur des icônes. L'IA générative par rapport aux IA précédentes, quelles qu'elles soient, machine learning, etc., c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas coder pour utiliser l'IA, vous allez juste lui parler.
Moi, je pense, je rejoins Nicolas. Il y a quand même une sacrée pédagogie à faire ici. Hein. Et je pense que BPI doit jouer un rôle important.
Oui.
Pas exclusif, mais important.
Oui.
Je ne sais pas comment vous y prenez concrètement pour faire cette évangélisation ou pédagogie.
Déjà, on publie l'étude.
Hein ?
On publie l'étude et on l'envoie aux chefs d'entreprise.
Bravo, mais est-ce que les pouvoirs publics, toujours eux, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans cette affaire-là ? Est-ce qu'il y a des incitations à mettre en place au-delà de la pédagogie ? J'en sais rien. Mais on ne peut pas rester à l'écart. Sans ça, on va prendre un train de retard.
Ah, c'est exactement ce que dit le rapport Aguillon. Je ne sais plus comment s'appelle celle qu'il a co-signée avec lui. Elle me pardonnera, présidente du conseil d'administration de l'École normale supérieure. Argent public et privé. Et attention, Aguillon, il a cette formule extraordinaire. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est un cheval fougueux. Alors, le cheval fougueux, ça peut vous emmener dans le mur ou ça peut vous emmener très loin si vous savez le dompter. Je crois que c'est assez bien vu. On a 3 minutes 13. Alors, tous les jours, à 7h45, j'envoie mon espèce de liste fleuve, là, à mes invités. Il y a 25 sujets, alors qu'on aura le temps d'en traiter 3 ou 4. Et je fais ça aussi parce que généralement, il arrive qu'un de mes invités me dise « Ah, j'aime bien là, ton histoire !» Et donc, c'est le dernier sujet de la liste qui a retenu votre attention. Nicolas Bouzou, quand j'écris « Faut-il exploiter du lithium dans l'Allier ?» Vous savez que le groupe minier Imerys a un projet d'exploitation de lithium dans l'Allier, en Auvergne, dans le Massif central. Et sur une mine qui existe déjà. Et donc un débat public s'est ouvert. Et alors là, attention, c'est la foire d'empoigne parce que les oppositions sont légion.
Oui, alors dans la Commission nationale du débat public, auquel j'ai moi-même été confronté pour défendre des projets d'infrastructure, il n'y a que des gens contre, hein, grosso modo. Hein. C'est quand même l'une des grandes limites de la démocratie participative. Je n'ai jamais vu quelqu'un pour dans n'importe quelle commission de débat public. Ça, c'est première chose, je ferme la parenthèse. Le lithium, c'est la matière première du 21e siècle. C'est celle dont on a besoin pour le numérique, pour la transition écologique.
Mais personne ne va le nier, ça.
Et attends, il y en a en France. Voilà. Non, mais enfin, donc l'enjeu. Il est là. L'enjeu, c'est est-ce qu'on veut bénéficier et faire prospérer cette matière première d'une façon qui sera beaucoup plus écologique qu'ailleurs, de toute façon, parce qu'on fait les choses bien, parce qu'on est très, très réglementé. Et donc, est-ce qu'on veut créer de la richesse, créer des emplois, acquérir un peu de souveraineté sur cette matière première, en défendant des standards écologiques qui seront les meilleurs au monde, est-ce qu'on est prêt à faire ça ? C'est formidable. C'est un projet politique, pour le coup, qui est un projet extraordinaire. Faire de la France un pays minier écologique. Mmh. Voilà, c'est ça ce qui est entre nos mains. Et donc, je pense que nous devons, parce que je vois bien les difficultés, ça fait peur, etc. Donc, je pense, en tout cas, c'est la façon dont François Monrôle, qu'il est de notre responsabilité de soutenir ces projets, d'en faire la pédagogie, parce que c'est des choses qui sont formidables pour la France. Et si on le fait pas, parce qu'on a peur des activistes qui comprennent rien au sujet, mais qui sont contre tout, de toute façon. Ils sont pas pour l'écologie, ils sont contre. Ils sont contre la société dans laquelle on vit. Donc, faut leur résister, parce que ça, c'est vraiment un projet d'intérêt général. Et c'est formidable pour le pays.
Oui. Sur un mot, mais on a fini, mais un mot...
Substitue à des importations.
Bah exactement.
Ah oui,
bah
oui. En plus, donc, ça va dans le sens de l'autonomie stratégique, j'allais dire au niveau français et pas seulement au niveau européen. Par contre, j'ai une question dont j'ai pas la réponse, c'est ça va permettre de faire de la substitution aux importations jusqu'à combien, en quelque sorte, l'ordre de grandeur, je m'en rends pas compte. Est-ce que c'est 5%, 5%, 10% de notre consommation?
Je pense que c'est cet ordre-là, mais en fait, il faut les voir aussi comme des projets territoriaux. Alors là, dans l'Allier, mais par exemple, dans le nord de la France, on va voir les usines de batteries. Il y a aussi, dans le Grand Est, hein, ce type de projet pour aller alimenter les gigafactories du nord
faut,
du pays.
Moi, complètement d'accord. Il n'en faut pas une, il en faut 10.
10 mines.
Mais oui, bien sûr, et pas que du lithium. Tout ce qu'on peut exploiter, on doit redevenir un pays d'exploitation.
Vous savez qu'on a du pétrole et du gaz de schiste dans les Hauts-de-Seine.
Oui, ben ça, c'est différent.
Mais bon, il faudrait défoncer Asnières et Bécon-les-Bruyères.
Mais ça, c'est pas écolo. Le lithium, non, c'est écolo. Ça, voilà. Le lithium, c'est pour faire des batteries.
Bon, eh ben, écoutez, on va suivre l'histoire. Mais voilà, en tout cas, j'étais sûr quand on a annoncé ça il y a 2 ans, 3 ans que ça allait poser des problèmes. Et là, c'est parti. Là, le débat public, waouh.
Faut pas se laisser impressionner.
Merci Christian de Boissieu, Nicolas Bouzou, Philippe Mutrici. On se retrouve demain, 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.